du coq à l'âne.
Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro 659 du coq à l'âne avec les coqualiens du soir. Ah, un grand qui nous a manqué un petit peu quand même, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. C'est Pierre Biruni qui est avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir Pierre Biruni. Jean-Claude Hérault, fidèle bonsoir. Au poste.
Bonsoir.
Salut Jean-Claude.
Les héros sont fatigués d'ailleurs. Ah,
non, pas du tout. Tu vas voir, je suis en pleine forme. Ne me cherche pas, Jean.
Jean Cointe, vous l'avez entendu. Oui. Et il est là aussi, Jeannot. Et puis notre invité, c'est Louis Albron.
Bonsoir.
Comment ça va, Louis?
Ben, tout va bien.
Alors, vendredi dernier... J'ouvre Libé et qu'est-ce que je vois ? Mon loulou dans Libé, puis pas un entrefilé, hein. Un article, une vraie page et tout, avec ta tronche, machin, ton costume, tes baskets, t'es beau comme un camion.
Ah ben, je t'ai toujours dit que j'étais mondialement connu à Saint-Crépin.
Hein. Et c'était quoi le but de l'article ?
C'est alors justement, on va poser la question, pourquoi Libération s'est intéressée à toi ?
Parce que bon, le journaliste qui a fait l'article, le Marc, m'a dit qu'il m'a pas rencontré, il a fait ce papier, parce qu'il me suivait depuis le temps, en 85, où j'étais président d'Antidrogue.
D'accord.
J'étais le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue.
Ouais, tu nous avais déjà
et
parlé
il a continué
ça.
À me suivre, comme je suis un homme plutôt créatif, original. Et puis, il a dit deux fois, ah il bon a dit deux fois dans son article que j'étais un grand serviteur de l'État.
Oui, c'est... Voilà. Non, voilà. On est d'accord. Et donc, il a eu envie de faire un article sur toi, tout simplement. Pourquoi ? Parce que tu es un de ceux en France qui a porté plainte. Alors, je sais que tu avais porté plainte contre la préfecture des Hautes-Alpes. Tu avais porté plainte.
Oui, mais enfin, je ne veux pas parler des affaires judiciaires, parce que moi, j'étais conseiller trois gardes des Sceaux, j'ai un grand respect pour le monde de la justice, et je suis pour le secret de l'instruction. Donc, j'ai été dans le département, et un des rares, hélas, lanceur d'alerte. À l'époque, c'est vrai, où les institutions nous disaient le masque ne sert à rien, il est contre-productif. Et moi, je pensais que... Et l'avenir m'a donné raison. Donc, j'ai rendu service à ce gouvernement. Il y aura sûrement moins de morts dans les Hautes-Alpes grâce à moi, parce qu'on allait vers la catastrophe, notamment dans certains établissements comme les EHPAD. Et le lendemain de mon intervention, la représentante de l'État a fait une circulaire disant qu'il fallait... Bon. Donc, moi, j'ai rendu service à ce gouvernement. D'ailleurs, je suis prêt à l'aider. Et j'ai rencontré cette semaine... un de mes amis qui est le directeur du cabinet de monsieur le ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Pierre de Bousquet, avec qui je vais travailler, faire une mission sur la toxicomanie, prévenir la toxicomanie chez les jeunes. Et je vais recréer une institution que j'avais créée en 86 avec Platini et le commandant Cousteau, je vais recréer la Ligue Nationale contre la Drogue. Voilà.
Alors,
et je rencontre la semaine prochaine le garde des Sceaux. Vous voyez que je suis tout à fait bienveillant avec ce gouvernement et je veux l'aider.
Ça tombe bien que tu parles de drogue, puisque être arrêté en train de fumer un joint en public coûte dorénavant 200 euros. Alors, est-ce que pour toi, cette amende forfaitaire, donc pour consommation de stupéfiants, est-ce que tu penses que ça va être efficace ?
Ah oui, c'est tout à fait mon avis. Et je m'étais battu quand j'étais en responsabilité contre notamment le clan Pasqua, qui lui était pour la répression, parce que la loi du 31 décembre 1970 permet de mettre le simple fumeur de joint en prison, et ça c'est scandaleux, parce que la prison étant le maire,
oui, ça sert à
le maire
rien.
Tous les vices.
Ça sert à
donc,
rien.
Voilà.
Donc je pense pour toi, l'amende, c'est voilà. Ce qu'il faut.
Et j'ai beaucoup évolué, alors j'étais très ferme à l'époque, je pensais que l'usage était un délit, maintenant je suis pour la dépénalisation.
Alors, ben voilà, parlons-en. Autour de la table, on va poser la question à tout le monde. Dépénalisons le cannabis ?
Pour le cannabis, oui.
Pour le
parce
cannabis.
Ça permettrait, à mon avis, de casser ce trafic qui pourrit l'ambiance des banlieues.
Tu penses que, sincèrement, il n'y aurait pas un marché parallèle qui pourrait se faire
non,
avec,
parce que quand
avec
il y a plus d'argent à gagner.
Du shit moins cher ?
Oui, non. C'est comme les cigarettes, ce sera marginal. Le trafic des cigarettes, ça a été le cas des Italiens après la guerre. Et maintenant, c'est terminé.
Oui, mais alors tous ces trafiquants, ils trouveront bien autre chose à trafiquer.
Eh bien, ils seront peut-être dans un trafic moins facile, parce que le trafic du hash est assez facile.
Ouais.
Et la police... Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour deux personnages de ce nouveau gouvernement, Macron 2. C'est le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. Je pense qu'on a là deux personnes efficaces.
Mais ils ne s'entendent pas. Hein.
Mais, oh, ça, c'est peut-être un c'est... peu tempérament différent, mais il y a
alors,
il y a des sensibilités différentes.
Donc, le ministre de l'Intérieur, Darmanin. Et évidemment, le garde des Sceaux,
Dupond-Moretti.
On est sur un débat de sémantique en ce moment, hein, puisque c'est la bataille des mots au sein même du gouvernement. Éric Dupond-Moretti récuse l'ensauvagement. Et l'autre insiste lourdement. Alors, on peut parler d'ensauvagement, pas d'ensauvagement?
Oui, mais ces batailles un peu thématiques sont un peu ridicules. Rappelez-vous Chevènement, qui parlait déjà aussi.
Les sauvageons.
Les racailles, les sauvageons, tout ça, c'est sans importance. Il faut quand même reconnaître que pour certaines personnes, c'est très difficile de vivre aujourd'hui dans certains quartiers.
Ouais. Un mot sur ça, justement, sur l'ensauvagement. Tu penses qu'on est vraiment dans... On en a déjà un petit peu parlé.
Oui, hein, on en a parlé la semaine dernière. Moi, je sais pas. Moi, je vis dans les Hautes-Alpes.
Eh oui, donc nous, donc, c'est difficile. Hein.
C'est difficile de savoir ce qui se passe dans les banlieues parisiennes, à Marseille et à Lyon. Donc, dans les Hautes-Alpes, on est quand même très préservé. Moi, j'en vois pas tous les jours. Je suis pourtant tous les jours au contact. À l'extérieur, je vois pas d'ensauvagement maintenant. Peut-être que j'ai pas
une recrudescence de la violence, Jeannot. Tu le ressens comme ça?
Je pense que c'est un truc assez complexe qui consiste à penser qu'effectivement on est en insécurité, on n'est peut-être pas plus en insécurité qu'avant, mais le problème c'est que les médias c'est une caisse de résonance et on est toujours en train d'en parler, ce qui fait que maintenant la première priorité, la première préoccupation des Français c'est l'insécurité. Voilà. À mon avis les choses ne sont pas pires qu'avant, tout au moins il y a une dégradation certainement qui est liée au mode de vie, puis à l'éducation que reçoivent les enfants ou à l'école ou même chez les parents, avec une impression d'impunité, on va dire, générale, qui fait que... Voilà.
Les prisons sont pleines, de toute façon, et il est évident aujourd'hui que, même si, alors je crois que 90% des peines, d'après ce qu'ils disent, sont vraiment effectuées, il faut quelquefois attendre 2 ans pour pouvoir aller au bout de ces peines, tu en sais
oui,
quelque
les prisons,
chose.
On ne peut pas dire, je pense aujourd'hui, que les prisons sont pleines, puisqu'il y a 13 000 détenus en fin de peine, à quelques mois de la sortie, qui viennent d'être libérés, notamment par le garde des Sceaux. Donc aujourd'hui, il y a...
Mais ça, c'est
le taux d'occupation
c'est
est
grâce, entre guillemets, au Covid.
Est à 90%, à cause du Covid, absolument. Hein, donc, pour éviter la contagion,
voilà.
Etc.
Mais
sur la dépénalisation, moi, je pense que ça serait bien qu'on ait un débat. Moi, une fois de plus, je suis très proche de ce que dit Loulou. Hein.
Ouais.
Ça nous arrive souvent d'être d'accord, mais là, je sais que ça ne va pas le plaire à tout le monde.
Vous n'êtes pas du même bord.
Mais ce n'est pas grave. C'est
comme
pas
quoi,
le problème.
Nous sommes deux humanistes.
Exactement.
Et moi, je pense que la dépénalisation permettrait de désamorcer ce trafic. Cet enrichissement. Après, il y a des règlements de compte, on ne sait pas d'où ça vient, c'est toujours des problèmes de drogue.
Ah bah oui,
donc,
souvent.
Si on règle ça...
C'est les 20 morts par an.
On peut très bien se consacrer à autre chose et faire de la prévention sur la gravité de la drogue.
Dépénalisation pour ou contre, Pierre Lurouni?
Si je pense à la santé immédiate...
Ça t'arrive de fumer un petit joint de temps en temps?
Pas du tout.
Jeannot, ça t'arrive de...
Jamais.
Tu as déjà fumé ou pas?
Ah non.
Jamais? Tu as déjà fumé?
Oui, j'ai fumé, mais j'ai arrêté il y a 10 ans. Donc.
Loulou, ça
t'arrive fumé, je parle de quoi de...
Je supporte pas le café, moi, je supporte pas tout ce qui est psychostimulant.
Et moi, jamais.
Jamais? Vous avez jamais testé?
Non.
Jamais,
on fait partie des générations qui ont échappé.
Ouais, on n'était pas...
On n'avait pas l'occasion, on n'avait pas la tentation.
Bien sûr.
Moi, j'ai fait je suis un petit peu plus jeune. J'ai jamais vu circuler.
Nous, c'était les cigarettes, c'était les troupes.
Tout à fait,
les P4.
Les troupes.
Les P4.
Les Françaises.
Thierry et moi, qui sommes à peu près de la même génération, on a connu
cette
époque où c'était facile de s'en procurer. Mais
j'ai fumé mon premier joint, je devais avoir 15 ans. Voilà, oui, bien sûr. Non, mais franchement, oui. Alors, je pensais pas qu'on avait autant d'écart d'âge, les enfants. Hein.
C'est-à-dire que les choses vont vite.
Oui. Rassure-toi,
à notre époque, ça sortait.
Donc, alors, la dépénalisation?
Par rapport à la santé des jeunes, on a envie de dire toujours non, parce qu'on n'a pas envie que les choses qui semblent être mauvaises pour la santé des jeunes et puis des autres en général soient faciles. Mais en revanche, si vraiment on se place du point de vue de l'envie d'arrêter tous ces trafics, je crois que c'est la seule solution. Voilà, donc comme on a tout essayé et que rien n'a marché, essayons ça, puis on verra bien.
Et aucun politique n'a jamais voulu l'essayer, parce que politiquement, c'est dangereux.
Oui, c'est parce que c'était... Là, c'est pareil, c'est dans ta génération, même si on a très peu d'écart, 4 ans.
Non, je rigole.
Puissance 4, non.
Non, quand même, pas exagérer. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Tiens.
Oui, les politiques, c'est pas payant.
Non, mais les choses évoluent, les mentalités évoluent. Je pense que moi, j'ose beaucoup plus dire je suis pour la dépénalisation maintenant que ce que je l'étais il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je trouvais que c'était pourquoi pas une bonne idée, mais quand même, je restais dans le camp de dire non, faut pas du tout dépénaliser, parce que si on fait ça, c'est le dernier rempart qui s'effondre. Ouais. Maintenant, je me dis finalement, enfin, il y a, depuis 10 ans, il s'est pas passé grand chose.
Si voilà, franchement, oui, je t'en prie.
Simplement, je pense qu'il faut dépénaliser et puis ensuite faire une politique de prévention dynamique.
Absolument.
Un peu comme on a fait pour la cigarette, pour le tabac.
Oui, et pour l'alcool aussi. On oublie quand même le premier fléau dans notre pays.
C'est l'alcool.
Avant toute chose.
Et c'est la malbouffe.
Alors, c'est l'alcool.
Et la malbouffe.
Oui.
Et la drogue.
Oui, c'est l'alcool. C'est l'alcool par excès.
Oui.
N'oublions pas aussi. Parce que tout est rapport à l'excès.
C'est la dose qui fait le poison, comme disait Paracels.
Je parle sous ton contrôle, mais je pense que la première goutte d'alcool ingérée, c'est une goutte d'alcool de trop.
Les cancérologues pensent maintenant que deux verres de rouge par jour, c'est trop. Et il y a déjà un risque cancérigène. Oui,
tout à fait.
Ouais. Voilà. Donc, mais boire une bonne bouteille une fois de temps en temps avec des amis.
Absolument.
Voilà. C'est comme quand tu prends l'apéro une fois par semaine avec des potes un soir.
Ça, c'est culturel, ça.
C'est bon. Si ça permet de s'éteindre, de rigoler, c'est bon.
Voilà, c'est ça.
Quand on disait Coluche, rigoler, ça vaut un beefsteak.
Et après, exactement. Et après, tout dépend de ce que tu fais de ta vie. Si t'es sédentaire, effectivement, ça va être compliqué. Si après, tu es plutôt à faire de la marche, à faire du sport, à faire du vélo, à faire n'importe quoi, automatiquement tout ça.
L'amour aussi.
Et oui, voilà, ça fait la balance. Quoi, ça fait la balance. Et alors le cannabis thérapeutique qui va bientôt arriver.
C'est une bonne chose.
Ça, c'est bien aussi.
Dans certaines affections neurologiques, c'est très précieux.
Moi, je pense que je vais aller voir mon pharmacien et je dirai, j'ai mal à la tête. Non,
je te ferai un certificat.
Je peux vous dire que malheureusement, un de mes proches a perdu son fils d'un cancer.
Ouais.
Et qu'il a fait le trafiquant de drogue là pour pouvoir alimenter son fils.
Non, c'est scandaleux.
Pour qu'il souffre moins.
Ah oui.
Il a fait le dealer.
Il a été chercher.
Il a jamais fumé ni rien.
Ça aurait dû être depuis longtemps.
Mais le problème, c'est que son fils souffrait tellement qu'il n'y avait que ça qui le calmait. Quoi. Enfin, je parle
d'un médecin. La sclérose en plaques, c'est très bon dans plusieurs maladies. Oui.
Donc il y a des moments.
Sous contrôle médical, bien sûr.
Il faut dépasser les tabous. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire n'importe quoi. Mais comme l'a dit Jean. Dépénaliser et prévenir, faire de la prévention, c'est la solution. De toute façon,
il faudra des hommes courageux, comme il y a eu Mitterrand et Badinter pour la peine de mort.
Voilà,
et moment où il faut des gens qui aillent contre l'opinion.
Tout à fait. C'est tout à fait ça.
On revient dans un instant. Le coq à l'âne, la suite, c'est juste après cette petite pause.